Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Côme Mellerio. Salut Côme.
Salut Adrien, ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Très bien, parfait.
Ma première question, c'est qui tu es, Côme ? Est-ce que tu pourrais te présenter et revenir sur l'ensemble de ton parcours, ta vie, ton œuvre ? Et puis après, je vais t'arrêter plein de fois pour te poser plein de questions, un milliard de questions.
Ok, du coup, je m'appelle Côme, j'ai 27 ans. J'ai rejoint Mellerio il y a 3 ans. Donc Mellerio, c'est une entreprise familiale. C'est la plus ancienne maison de joaillerie au monde. C'est le joaillier historiquement des rois, des reines en France. Ça a commencé par François Ier, Marie de Médicis, qui nous a vraiment propulsé et créé un décret nous permettant de pouvoir devenir joaillier officiel de la cour. Mais c'est pas que ça. Certes, il y a eu joaillier des rois et des reines en France et en Europe, la reine d'Italie, la reine d'Espagne, la reine des Pays-Bas, mais aussi après c'était des artistes et des femmes. Essentiellement des femmes, oui.
Ouais, trop bien.
Mais des femmes comédiennes, écrivaines, des musiciens, Wagner, des écrivains, Chateaubriand par exemple. Ouais. Voilà, donc.
Trop bien. On va y revenir sur tout ça. Tu m'as déjà ouvert l'appétit en me faisant un petit tour de la maison. On traverse les siècles hein, quand on arrive dans cet endroit, Place Vendôme. Enfin, on est rue de la Paix. On est au 9 rue de la Paix.
9 rue de la Paix, oui. Ouais. Depuis 1815.
Depuis 1815. Et c'est fou. Et bon, on va diguer tout ça. Mais en tout cas, avant de commencer de parler de Mellerio, moi, j'ai envie de comprendre qui tu es toi. Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es né?
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait de grandir dans une maison? À quel point tu es proche du pouvoir de la maison Mellerio? comment on grandit? Comment on vit avec ce patrimoine qui est aussi imposant, aussi lourd,
ouais.
quoi.
Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis parisien. J'ai étudié toute ma scolarité à Gerson, donc à un lycée dans le 16e arrondissement. J'ai une vie très simple avec trois frères. On est quatre frères au total. Je suis très proche de ma famille. On a une vie de famille très soudée. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce à Paris et qui m'a permis aussi de faire des échanges à l'étranger, à Hong Kong comme premier stage et ensuite à Santa Barbara en échange. Et là, ça m'a un peu ouvert l'esprit. J'ai compris ce que je voulais faire dans la vie. C'était surtout entreprendre. Dans quoi j'en avais aucune idée, mais par exemple à Santa Barbara, j'ai monté une petite société de skateboard électrique pendant mon année d'échange, et c'est là où j'ai compris que ce que je voulais faire dans la vie, c'était vraiment développer quelque chose. Voilà.
Très bien. T'as fait quoi comme école de commerce ?
Ça s'appelle l'Institut supérieur de gestion, l'IAG.
Ok, voilà. Très bien. Et Santa Barbara, donc passionné de skateboard, de surf, c'est ça ?
Ouais, j'aime bien le surf et le skateboard, mais c'était surtout... Je trouve que là-bas, il y a une dynamique où les gens ne te jugent pas, ne te regardent pas de haut et plutôt vont t'aider. Et du coup, j'avais cette idée de que je trouvais génial de mettre une batterie et bon ça existait déjà hein, mais de créer des skateboards. Il y avait une boîte qui s'appelait Boosted Board qui était des longboards pas du tout pratiques à skater et là je voulais faire un cruiser board donc plus petit, plus maniable pour les étudiants et du coup après on vendait nos petits skateboards Voilà, bon, c'est jamais devenu
une multinationale, voilà, mais en tout cas c'était un super projet en parallèle de tes études.
Voilà.
Donc après les States, tu reviens en France, qu'est-ce que tu fais en France?
Je reviens en France et je commence à travailler chez EY en Transaction Services.
Mmh. C'est quoi, c'est de la banque?
En fait on audite les deals, soit c'est de la fusion acquisition, et c'est soit on audite la boîte qui est à l'achat ou à la vente. Mmh. Voilà, donc ça dépend, on est soit d'un côté soit de l'autre, et on regarde, on analyse les comptes et tout. Okay. Voilà.
Et t'as fait ça combien de temps?
J'ai fait ça 4 mois, c'était mon stage de fin d'études. Voilà, c'était pas... Moi j'ai adoré, hein, mais je me voyais pas évoluer là-dedans.
Ok, voilà. Très bien. Et ensuite?
Et après du coup j'ai fait un bootcamp pour apprendre à coder qui s'appelle Le Wagon.
Ah, trop bien.
Ouais, très sympa.
Super connu.
Ouais, très connu, de plus en plus.
Ouais, et donc t'as appris à coder.
Voilà, bon, c'est vraiment les bases du code, mais pareil, c'est toujours en cherchant un peu ce que je voulais faire, en me cherchant. Et en fait, après, juste après Le Wagon, il y a eu... mon père qui est tombé malade, et qui m'a demandé de venir chez Melario juste pour dépanner, l'histoire de 1 à 2 semaines, parce qu'il se sentait pas très bien.
Ouais.
Et en fait, il est décédé, donc je suis resté un peu plus longtemps.
Okay.
Donc une arrivée chez Melario assez triste finalement, mais en fait, je me suis vraiment plongé dans cette maison, plongé dans les archives, là où on est, parce que pour moi, c'était vraiment le cœur. Et j'ai appris à connaître les gens, parce que je les connaissais pas. J'étais pas du tout destiné à travailler chez Melario. Et quand j'ai commencé à travailler chez Melario, c'était un an en boutique, donc vraiment au contact du client. Là où on voit, on rencontre les clients, on rencontre des fiancés, on célèbre des beaux événements. Donc c'est finalement la vie de joaillier, c'est assez heureux, parce que c'est toujours.
C'est que dans les bons moments, quoi.
Voilà,
normalement.
Les clients sont contents de venir chez Melario en général, donc ça c'est assez sympa. Et on est aussi confident, c'est-à-dire que souvent on est les premiers au courant qu'une demande en mariage va se faire, que voilà, donc ça c'est. Faut respecter ce secret aussi. Non, mais c'est...
pas de boulette,
ouais. Pas de boulette. Non, mais très sympa.
Trop cool. Et hyper intéressant, donc c'est vraiment ton papa et ta maman qui étaient à la tête de cette maison, enfin, qui ont hérité aussi de cette maison qui a plusieurs centaines d'années.
Ouais, en fait, c'est...
C'est quoi l'histoire de Melario? Tu peux nous faire un petit...
Un petit topo
de quelques centaines d'années.
Ouais, on va essayer de résumer 400 ans d'histoire en 5 minutes, mais...
Non, on a le temps, hein. Tu sais, on a 2-3 heures devant nous.
En fait, c'est une maison, c'est la plus ancienne maison de joaillerie au monde. C'est une petite... Avant d'être une maison de joaillerie, c'est un nom de famille, c'est Melario, c'est notre nom de famille. Et c'est une famille qui vient du nord de l'Italie, d'un petit village qui s'appelle Craveggia, près du lac Majeur, le lac de Côme et tout ça. Et en fait, en 1515, sous François Ier, qui était un passionné de Renaissance italienne, il a fait venir plein d'artistes italiens, des architectes, des peintres, des musiciens, mais aussi des orfèvres et des joailliers. Et nous, on faisait partie de ce petit mouvement de migrants italiens qui sont arrivés à ce moment-là, appelés par François Ier. Et on s'est installé en France. On a commencé à avoir des clients français petit à petit. Mais c'était assez difficile. Et d'ailleurs, on s'est fait renommer par la reine Marie de Médicis, non pas en Melario, mais en Meller. C'est pour ça que le nom, c'est Melario di Meller. Melario, l'origine italienne, et Meller, le surnom français, pour franciser et nous aider à nous intégrer. Et voilà.
Parce que la famille Médicis, donc, était... Refais-nous un petit cours d'histoire, parce que moi, je suis complètement perdu.
Donc, Marie de Médicis, qui était du coup mariée à Henri IV, et du coup, qui était la régente de France à une époque, parce que Henri IV est décédé. Et du coup, comme elle était italienne, mais régente de France, elle nous a un peu pris sous son aile et vraiment aidé.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Trop cool. Et donc, qu'est-ce qui se passe après les Médicis?
Donc, après les Médicis, tous les rois de France. Donc, il y a eu un décret le 10 octobre 1113 qui a vraiment acté le début de Melario, même si ça existait déjà avant. Mais on a toujours ce décret dans nos archives. Ce décret, on l'a eu. Alors, il y a une légende qu'on se transmet de père en fils qui explique pourquoi on a eu ce décret. Je ne sais pas si tu veux que je
raconte. Carrément, ouais. On a le droit de le dire.
Ouais. Oui, bien sûr, on a le droit. Donc, en fait, c'est une histoire de ramonage. C'était des petits ramoneurs italiens avec qui on était arrivés en France, qui ramonaient les cheminées du Louvre et qui avaient entendu un complot contre le roi Louis XIII, qui avait que 12 ans à l'époque, donc qui était très jeune. Et du coup, les ramoneurs entendent ce complot et en parlent au Mélério. Et les Mélério, qui étaient proches de Marie de Médicis, va prévenir Marie de Médicis et va prévenir du complot et de l'assassinat du roi. Et pour le remercier, Marie de Médicis aurait écrit ce décret le 10 octobre 1613. Voilà, donc c'est comme ça qu'on aurait eu ce décret et qu'on est devenu fournisseur officiel de la cour de France à l'époque. Mais après, il y a eu la cour d'Italie parce qu'on a fait le diadème pour les reines d'Italie, la reine d'Espagne qui porte toujours une couronne Mélério aujourd'hui, une tiare Mélério, la reine Maxima aux Pays-Bas, l'impératrice du Japon qui porte des montres Mélério. Donc voilà,
c'est fou, c'est magique. Tout à l'heure, franchement, tu m'as fait un petit tour du musée, du musée Mélério,
de quelques
pièces historiques. Est-ce qu'on peut le refaire? Parce que je trouve que c'était hyper riche pour vraiment se rendre compte de la... du poids de l'histoire qu'il y a cette maison. Et après, on rentrera plus dans le détail d'aujourd'hui, de ce qui se passe, des enjeux. Et puis toi, tes enjeux à toi aussi, parce que je trouve que ça me paraît fou. On sait, on y va?
Ouais, bien sûr. Let's go.
On y va parce que...
Donc déjà, nous, là, on fait ce podcast dans le cœur de Mélério, vraiment les entrailles.
Ouais.
C'est 500 000 dessins d'archives, de dessins d'archives, mais de carnets de commandes clients, qui sont archivés ici qui représente le style et l'évolution du style de la joaillerie française et européenne depuis Marie de Médicis jusqu'à aujourd'hui.
D'accord.
Et nous, notre vraie richesse, notre vrai patrimoine, c'est ça. Et quand je suis arrivé chez Mélério, il y avait tout pour moi ce trésor, cette pépite, et c'était savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on partage ça, comment tout ça, ça ne doit pas rester dans une cave, mais comment on peut le partager à tous les amoureux de la joaillerie. Et voilà.
D'ailleurs, question peut-être bête, mais est-ce que tout ça est scanné et gardé, archivé dans dans un endroit in the cloud pour éviter, si jamais ici ça prend l'eau, ça prend feu, etc.
In the
qu'est-ce
cloud,
qu'on fait?
Ouais, un petit peu. On a commencé le travail, on n'a pas tout fait. On a scanné pas mal de. Il n'y a pas tout, mais il y a une grande partie. Donc si jamais il y a une inondation ou un feu.
On perd pas tout. Quoi.
Voilà, on perd pas tout. Mais ce serait quand même dommage de plus avoir les originaux.
Ouais.
Je peux te montrer un document très historique. Qui est par exemple ici un parchemin.
Ouais.
Et en fait, il y a la date de la Révolution française, le 14 juillet 1789. Et on voit qu'il y a des commandes. Donc là, c'est le 14 juillet.
Ouais.
On voit qu'il y a des commandes ce jour-là de personnes, de clients qui viennent faire des bijoux chez Mélério, alors qu'on sait que c'est la Révolution française. Donc voilà.
C'est vrai que c'est assez magique. Moi, ça me donne des frissons, tout ça. Je trouve ça vraiment fou d'être confronté à l'histoire.
Petit voyage dans le temps.
Aussi frontalement, ouais.
Ouais. Donc là, on retourne vraiment dans le petit musée.
Ouais.
Et on va découvrir, en fait, je t'avais montré l'ancêtre de la boutique Mélério. Donc ça s'appelle une marmotte. C'est un petit sac à dos en bois dans lequel... on colportait les bijoux, les objets précieux directement à la reine de France ou à la comtesse. Voilà, il fallait être sur la liste des fournisseurs officiels. On prenait rendez-vous pour un jour. En général, on arrivait à 6h du matin. Voilà. On attendait jusqu'à midi son tour. Et en tant que fournisseur, on avait le droit de présenter les pièces. Si la comtesse ou la reine... aimait la pièce, elle la gardait. Et ensuite, on se faisait payer
plus tard.
Ouais, en jour, en mois, en année parfois et parfois jamais.
Ok, d'accord. Et donc tout ça était transporté à dos de cheval dans une calèche.
Là il y a deux ans. Enfin, c'est un sac à dos en fait.
Ouais. Voilà. Donc le gars il traversait
et
objets.
Exactement. Et même il faisait à pied Italie, Paris. Donc ça délire. Mettait des jours et des jours. Mais
il se faisait pas piller, ça devait arriver souvent, non?
Si, oui, mais il y avait des. Oui, bien sûr.
Il devait y avoir des gardes du corps aussi, enfin, des gens peut-être.
Non, pas tellement, mais c'était un métier où. Enfin, c'était une époque où tout le monde faisait ça.
Ouais.
Il n'y avait pas les moyens actuels, il n'y avait pas de train, il y avait on pouvait louer. Enfin, on pouvait y aller aussi à cheval, mais. Mm. Mais voilà.
Quelle époque!
C'est assez spécial, ouais.
Ok, et alors là, tu me disais. Parce que, bon, là, on est en 1950, après, on revient plutôt années 30, etc.
Voilà.
Tu peux nous faire un petit.
Ouais, on va commencer par le plus ancien. Donc ouais. Là, c'est un bracelet qui a appartenu à Marie-Antoinette. Mm. Donc, ce qui montre ça, c'est vraiment nos livres d'archives où on voit. Qu'elle commandait. Donc, est-ce que c'est celui-ci exactement ou c'est un similaire? On ne sait pas exactement, mais il pourrait que ce soit vraiment celui-ci. Et en haut, on a un nœud, un ruban qui représente vraiment le style, le romantisme, qui est vraiment typique de Marie-Antoinette. Voilà.
Trop bien. Ok. Mm. Ici, on a.
Ici, on a des pièces beaucoup plus modernes. Donc, ce sont des ongles en platine et en diamant.
Ouais.
Qui ont servi pour des défilés de haute couture.
Mmh. Donc, c'est Dior, Chanel
Balenciaga. Dior et Balenciaga. Et voilà.
Ouais, à l'époque de Dior et à l'époque de Cristobal.
Voilà, c'est ça.
les vrais de vrais.
Ouais. Et il n'y avait pas Dior Joaillerie et tout.
Bien
ça.
Sûr.
Donc, à l'époque.
Okay.
Là, on a par exemple un collier égyptien avec. Donc, ça, c'est l'avènement de l'art déco. Sauf que l'art déco, normalement, c'est un peu plus tard, mais là, on est en 1909. Et aussi, on a le. Qu'est-ce que c'est, Melerio? C'est le naturalisme. Donc, le but, c'est vraiment imiter au mieux la nature. Et par exemple, sur cette broche avec le travail de l'émail guilloché, on voit le travail de Melerio qui est de représenter au mieux la nature. Ouais, voilà. Et ici, par exemple, on a la plume de paon de l'impératrice Eugénie. Et au centre, il y a une émeraude qui est la taille Melerio. Alors, la taille Melerio, qu'est-ce que ça? C'est une taille de diamant ou d'émeraude ou de pierre précieuse ovoïde, comme ça.
Ouais.
Un peu en forme d'œuf, on va dire. Et Melerio, en fait, a puisé son inspiration dans un diamant de 34 carats qui a appartenu à Marie de Médicis, donc qui a été offert par Henri IV à Marie de Médicis pour son couronnement.
Ouais.
Et donc, quand elle s'est fait couronner, sur la tiare, la couronne, il y avait ce diamant de 34 carats qui s'appelle le Beau Sancy. Et les Melerio sont toujours inspirés un peu par fascination de ce Beau Sancy. Et au cours des siècles, on a poli, on a revu un peu la forme, on l'a poli au cours des siècles et on est arrivé à cette taille Melerio qu'on a ensuite proposé dans une collection de joaillerie, mais aussi dans nos montres. Maintenant, cette forme est même présente dans notre logo. Donc c'est vraiment notre identité. Voilà.
Très bien. Trop cool. Continue.
Ouais. Donc là, c'est des exemples de tiares un peu historiques pour montrer qu'on faisait des belles couronnes à l'époque. Voilà. Donc.
Ok. Trop beau.
Et là, c'est une autre vitrine sur les bijoux à effet, la joaillerie à effet. En fait, il faut savoir que après le Premier Empire, donc c'est la Restauration, donc la noblesse revient au pouvoir. En revanche, la France est très appauvrie suite aux guerres du Premier Empire. Et du coup, en tant que joaillier, il va falloir se réinventer. Et on va développer en fait les bijoux à effet, c'est-à-dire le but, c'est de renvoyer le maximum d'effets à travers le volume et la couleur, mais avec des matériaux qui sont peu onéreux, qui coûtent pas cher en gros. Et là, on va, au lieu d'avoir des pierres précieuses, on va se tourner vers les pierres fines, les aigmarines, les améthystes, les citrines, et on va avoir des liens d'or qui sont très très fins. On va, parce que plus on met d'or, plus forcément c'est onéreux, et voilà. Et on va, en fait, sur ces parures, il y a quelque chose qui est très identifiable à Melerio, c'est l'or vert. Par exemple, les feuilles sont en or vert, les petites roses sont en or rose et le grenetier en or jaune. Donc ça, ce contraste aussi, c'est important pour nous parce que c'est quand on va sortir une nouvelle collection ou on va avoir un nouveau, on va essayer d'innover. Bah, on va faire tout un travail d'analyse des pièces historiques, des archives et tout ça. Et c'est pour ça que les archives, c'est super important parce que c'est vraiment l'identité de notre maison.
Les codes de la maison.
Les codes de la maison. Ouais. Et si on veut rester Mellerio, il faut qu'on se réfère aux archives, aux pièces historiques. Bien sûr, imaginer de manière contemporaine et moderne, parce que porter une couronne aujourd'hui, ce ne serait pas possible.
Non.
Ou alors, c'est très osé. Mais en revanche, reprendre des techniques à l'époque, par exemple l'or vert, reprendre la taille Mellerio, ça c'est super intéressant. Et je pense que, par exemple, des jeunes fiancés qui recherchent une bague de fiançailles, ce qui est intéressant, c'est d'avoir. Il faut aimer le design et la bague, mais avoir un bijou qui a de l'histoire, je pense que c'est super important aussi.
Trop bien, c'est clair, hyper excitant. On redescend dans notre cave avec tous ces livres. Comment est-ce qu'elle a évolué, cette maison, depuis les siècles, et surtout depuis peut-être l'histoire plus récente, parce que alors ton grand-père devait être dans le business, ton père, maintenant tu prends la suite. Comment ça a évolué, comment ça a traversé les années? Parce qu'on est toujours rue de la Paix, juste à côté de la place Vendôme. Hein, c'est la rue de la Paix, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment la rue qui amène sur la place Vendôme. Comment cette maison a évolué? Est-ce qu'elle a été à un moment donné... est-ce qu'on peut être has-been? Est-ce qu'on peut être moins cool? Il y a ce côté aussi dans la joaillerie où il y a des maisons qui sont plus importantes que d'autres, qui font plus de market. C'est quand même la guerre quoi aussi. Hein, Place Vendôme, c'est que tout le monde se tire la bourre, j'ai l'impression.
Ouais. On essaye de pas rentrer dans cette course justement et de rester nous-mêmes. Non, mais en fait le vrai, donc il y a 15 générations qui se sont succédées. Donc, je pense que le secret, c'est d'avoir su être agile et s'adapter et parler à sa génération. En restant Mellerio, mais avec les codes. Par exemple, il y a 30 ans, il n'y avait pas le digital, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, il faut intégrer le digital dans les réflexions autour de Mellerio. Comment on peut faire? Nous, il faut qu'on ait vraiment notre vision, notre message, rester qui on est et le partager. Après, il faut vivre avec son temps, mais il faut évoluer aussi.
Bien sûr. Donc, quand tu arrives ici, je trouve ça. Enfin, c'est. T'étais pas voué à reprendre la suite, ou en tout cas à intégrer le business familial.
Ouais.
C'était vraiment par devoir envers ta famille. C'était pourquoi t'as décidé de rejoindre ton papa est parti trop vite et. C'est quoi? C'était le devoir familial. En fait, tu prends tes responsabilités, tu dis « Ok, bah, c'est le business de famille depuis 15 générations, il ne faut pas que je foire le truc. »
Alors, je ne me suis jamais senti forcé et obligé de rentrer chez Mellerio. Et d'ailleurs, au début, je ne pensais pas du tout travailler dans la joaillerie, pour être honnête. Je suis rentré chez Mellerio de manière un peu précipitée, ça c'est vrai. Mais je pense que quand on commence à goûter à Mellerio, on est obligé d'adhérer, parce qu'il y a tellement d'âme. En fait, pour moi, c'est une maison de joaillerie qui a vraiment su conserver son âme. Il y a tellement que ce soit par les archives, que ce soit par l'équipe, il y a vraiment une ambiance un peu de maison de famille. Et je pense que c'est très touchant, en fait. Mais oui, alors vu de l'extérieur, ça doit pas être très clair, mais quand on le vit, c'est... Ouais. En plus, on a vraiment... Alors ça, c'est peut-être mon côté entrepreneur, mais je me dis, pour moi, Mellerio, c'est une pépite, c'est méconnu, et j'ai qu'une envie, c'est de faire rayonner Mellerio et de développer. Parce que pendant les 50 dernières années, Mellerio, c'était vraiment le travail de la joaillerie à l'ancienne, c'est-à-dire spécialisé dans la haute joaillerie, la commande spéciale. On faisait des bagues de fiançailles aussi, mais beaucoup en commande spéciale, il n'y avait pas vraiment de style Mellerio à proprement dit. Quand on est arrivé chez Mellerio avec maman, donc ma mère qui dirige la maison, qui est présidente et directrice artistique, on a fait un travail un peu à 360 degrés avec l'aide de partenaires aussi, comme l'atelier Franck Durand, en communication avec DLX, tout un travail un peu à 360 degrés pour savoir où est-ce qu'on voulait aller et qu'est-ce que chaque génération a sa responsabilité et nous, notre génération, qu'est-ce qu'on fait pour Melerio? Et donc la commande spéciale, on la continue bien évidemment, mais en plus de ça, on essaye vraiment d'avoir de raconter l'histoire de la joaillerie française et européenne parce qu'on a ce patrimoine, parce qu'on a les archives. Et on raconte ça à travers nos collections contemporaines. Donc à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle collection, une nouvelle pièce, voilà, ça va être relié, ça va être expliqué. Par exemple, les Color Queens sont des bagues très volumineuses, très, très colorées et typiquement des bagues inspirées de la Renaissance italienne. Voilà. La taille Melerio, bon, bah, j'ai expliqué l'histoire avec le Sensi et tout ça. C'est vraiment quelque chose de très identifiable qui représente la maison et voilà.
Trop bien, c'est hyper intéressant. On va diguer tout ça. Donc toi, t'es responsable du développement, t'es responsable voilà. commercial, responsable du développement. Concrètement, ton quotidien, c'est quoi ?
Mon quotidien, bah, c'est de superviser un petit peu la boutique déjà, ouais. le retail, parce qu'il faut être très proche de ses clients.
Il n'y a qu'une seule boutique, hein.
Et 9 points de vente au Japon.
D'accord.
Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule boutique qui est 9 rue de la Paix. Ouais. Donc, c'est la boutique, c'est donc en France, c'est de commencer une réflexion sur l'international. Donc, il y a le Japon, mais on va essayer de se développer petit à petit. On va prendre notre temps parce que je pense que dans le luxe, c'est important de ne pas se précipiter. Mmh. Et de faire les choses, de construire les choses avec une réflexion à 20, 50 ans et ouais. pas faire.
C'est intergénérationnel.
Voilà,
quoi.
Le but, c'est pas de. On n'est pas pressé. On se met zéro.
Ouais, on n'est pas en mode start-up où on va vendre en 3 voilà. ans, quoi.
Et on a la chance aussi d'être complètement indépendant. Donc, il n'y a pas de fonds derrière ou de groupes qui nous mettent la pression. Ou, voilà. Donc, ça, c'est. On y va à notre rythme, on fait les choses bien et pour que ça dure. Voilà. Et c'est important d'avoir des bonnes fondations, surtout quand bah, Melerio, c'est une offre de la paix aujourd'hui. Mais idéalement, oui, on veut développer à la fois. Moi, je crois beaucoup au digital. Je crois beaucoup à l'international aussi. Et même en France, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais.
Ouais.
Donc, c'est ces trois...
Ces trois piliers. Ouais. Ouais. Peut-être pour revenir aussi sur le savoir-faire concrètement, parce que... Vous êtes joaillier, ça veut dire quoi être joaillier ? Ça veut dire fabriquer aussi, c'est
ouais,
ça ?
Bien sûr, bien sûr. Donc l'atelier est au dernier étage.
D'accord.
Donc historiquement, on était les premiers à s'installer rue de la Paix en 1815, qui s'appelait d'ailleurs pas la rue de la Paix, mais la rue Napoléon. Et mon arrière-grand-père s'était dit, comme c'est la rue la plus large de Paris à l'époque, on va se mettre là. Et effectivement, après, c'est devenu le centre de Paris, la place pour la joaillerie. Okay. Voilà.
Et historiquement, pourquoi c'est devenu cette place pour la joaillerie, etc.? Pourquoi la place Vendôme, c'est le luxe, c'est la joaillerie?
Bah, parce que les joailliers ont commencé à se mettre là. Voilà.
Ok, c'est vrai.
Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas d'autre explication que ça.
La place ouais. est très très belle. Avant, il y avait une statue de Louis XIV et on est les seuls à avoir vu cette statue de Louis XIV. Ensuite, il y a eu la colonne Vendôme avec ouais. Suite à la bataille d'Austerlitz, ils ont fait fondre les canons des Autrichiens. Ils les ont fondus, ils ont fait la colonne Vendôme. Donc, ouais. c'est avec une statue de Napoléon tout en haut. Voilà. Donc, c'est l'histoire. C'est. Ouais. Chacun a mis sa petite pierre
à l'édifice de l'histoire de France.
Et oui, les joailliers sont arrivés petit à petit. Voilà.
D'accord. Et donc, ouais, donc le métier de joaillerie, c'est quand même d'aller sourcer des pierres, de dessiner des créations ouais. et de les fabriquer.
Exactement.
In-house.
Voilà. Nous, on n'a pas du tout de mine de diamants. Voilà. Nous, c'est vraiment la création. C'est vraiment trouver les plus belles pierres. Donc, on a des gémologues, on a des dessinateurs. On a, voilà. Et nous, notre travail, c'est vraiment la création, le design. Et en plus de ça, c'est de raconter quelque chose, l'histoire de la joaillerie française et européenne à travers nos collections.
D'accord.
Mais imaginé de manière contemporaine et moderne.
Ouais. Voilà. Vous êtes combien dans la société là ?
On est une trentaine de personnes.
Ok, trentaine de personnes. Qui sont gémologues.
Voilà, c'est ça.
C'est ça ? C'est quoi les différents départements dans la société ?
Bah oui, voilà, c'est des personnes en gémologie, au design, en vente aussi et à l'atelier. D'accord. Et après, il y a les services administratifs, comptabilité, etc. Voilà.
Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce travail de branding que vous avez fait avec l'atelier Franck Durand, avec DLX, etc. J'aimerais trop les avoir avec nous, là, pour qu'on puisse en discuter. Je me disais que ça serait des épisodes assez, assez fabuleux de pouvoir réunir plusieurs personnes qui ont travaillé sur un même projet. Mais bon, toi, tu as été au centre du truc, donc tu vas pouvoir nous raconter.
Ouais.
Comment est-ce que vous avez travaillé, justement, sur à la fois... Bon, Franck Durand, vous savez, il est passé sur ce podcast il y a quelques temps, le directeur artistique avec son équipe, Guillaume Delacroix de DLX, que j'ai interviewé plusieurs fois sur ce podcast, qui est attaché de presse. Comment est-ce qu'on réfléchit sur l'identité d'une marque, sur les valeurs, l'ADN, et comment est-ce qu'on retravaille une plateforme de marque dans un premier temps, et comment est-ce qu'on... en prenant toutes ces archives, toute cette histoire, etc., on en fait la continuité, ou en tout cas un nouveau Mellerio. En tout cas, on écrit le futur de Mellerio. C'est une grosse question. Hein.
Ouais, grosse question. non, mais en fait, ça s'est fait... donc moi, quand je suis arrivé, j'étais sans expérience de la joaillerie, sans expérience tout court d'ailleurs, parce que je terminais mes études. Maman, elle avait déjà pas mal travaillé en tant que directrice artistique. Mmh. Elle n'était pas présidente quand... C'était mon père qui était président, et mon père aussi. Mes parents avaient repris Mellerio 3 ans avant, donc c'était aussi assez récent.
Assez précipité aussi, ouais. Ok, d'accord. Parce qu'ils sont, en fait, ils ont repris au départ de tous tes grands-parents, voilà. En fait.
Mon grand-oncle, en fait, qui est arrivé, pareil, il avait perdu son père à 24 ans, et du coup, il était arrivé très jeune.
Ok.
Et il était resté jusqu'à 70 ans, et ensuite, il est parti à la retraite, voilà.
En transmettant à tes parents.
Voilà, exactement.
D'accord. Ouais.
Et c'est vrai qu'il y avait, c'était un très bon connaisseur des pierres. Il était passionné par la commande spéciale aussi. Donc voilà. Et nous, en fait, quand on est arrivé chez Mellerio, on est arrivé avec aussi l'ambition de faire rayonner Mellerio un peu plus loin que la rue de la Paix. Mmh. Et du coup, ça devait passer par qu'est-ce que c'est Mellerio? Comment on reconnaît Mellerio? Et donc voilà, et en fait on s'est dit comment on s'y prend, parce que voilà, et la première chose c'était la construction de l'équipe, donc comment on constitue une bonne équipe pour parce que c'est un nouveau métier, en fait c'est une identité, un univers de marque à 360 degrés, et ça, il faut le penser, il faut, voilà. Et en fait, un très bon ami de maman nous a mis en relation avec quelqu'un qui s'appelle Christophe Mellard, et qui a vraiment une vision un peu, qui connaît l'univers du marché du luxe, tous les concurrents, tout le, voilà. Et qui a vraiment une vision pour les choses. Et c'est vrai qu'on a commencé à travailler avec Christophe, et qui nous a ensuite présenté Franck Durand et DLX, et voilà. Mmh. Et après on s'est fait ça a été une réflexion tous ensemble. Mmh. Et en plus de ça, tous les personnes qui travaillent chez Mellerio ont participé à ça aussi. Mmh. Je pense que c'est la dimension familiale qui fait ça. Et voilà, c'était un travail vraiment collectif. Mmh. Et ça, c'était voilà. Dans quel but? Dans le but de dans cet environnement de grands groupes, de concurrence, voilà, de savoir comment on reste nous-mêmes et comment on vit, comment on se crée notre place aujourd'hui. Et voilà, donc.
Et alors, comment est-ce qu'on crée sa place dans cet univers extrêmement concurrentiel? Où tu le disais, il y a les mastodontes qui sont là depuis, qui sont peut-être arrivés après vous, parce qu'ils sont peut-être un peu plus jeunes, même si c'est de la jeunesse en centaines d'années.
Non, mais c'est drôle, parce qu'il y a, pendant jusqu'à dans les années 50, on était plus gros que Cartier.
D'accord.
Et ensuite, Cartier s'est vraiment développé avec les meuses de Cartier à l'époque, avec beaucoup d'investissements. Après, ils se sont fait racheter aussi par Richemont et tout. Donc après, c'est pas les mêmes moyens, mais c'est marrant comme il y a eu deux chemins, en fait, deux chemins de prix qui ont changé, voilà. Qui ont changé la donne. Ouais. Et donc nous, notre ambition, c'est pas du tout de devenir Cartier. Hein. C'est plus de justement proposer. On est une maison qui a une âme, qui a su conserver notre âme, et du coup de partager ça et de le faire ressentir dans toutes nos créations. Et comme on a des très belles archives, de un patrimoine historique énorme, de le faire ressentir dans les bijoux qu'on offre, enfin qu'on propose à nos clients, voilà.
Trop bien. Et donc, juste pour revenir sur ce marché, aujourd'hui, donc t'as ces mastodontes, les quartiers. Je les connais pas très bien, mais je pense aussi à des newcomers. J'ai récemment interviewé Viltier ou Gemio, etc. C'est des gens qui se disent joailliers aussi, qui ont pas forcément cette histoire. Comment est-ce comment est-ce qu'on navigue dans cette industrie de la joaillerie qui est extrêmement concurrentielle, au même titre que la mode ou au même titre que toutes les industries finalement, parce qu'aujourd'hui on a une époque quand même où il faut se lever tôt pour faire un truc. Comment est-ce qu'on se positionne là-dedans et comment on tire son épingle du jeu, quoi?
Moi je pense que il faut rester soi-même. Faut vraiment nous c'est notre histoire qui nous différencie. Du coup il faut capitaliser sur nos archives et le fait qu'on soit toujours familial, toujours indépendant, et voilà. Et après imaginer des portées très modernes, très contemporains, mais voilà quoi.
Très bien. Toi, comment tu imagines ton futur dans cette société? C'est quoi les prochaines étapes?
Les prochaines étapes, c'est de faire rayonner Melerio un maximum. Donc nous on croit beaucoup à un développement digital, parce qu'aujourd'hui avec le digital c'est possible de se faire connaître rapidement. Et du coup voilà, donc c'est beaucoup miser un peu sur le digital et après inviter beaucoup les gens à venir
vivre l'expérience in real life.
C'est un peu Melerio, c'est un peu un best kept secret, c'est quelque chose de méconnu. C'est une maison de joaillerie qui a traversé des générations et des générations, et finalement c'est resté unique, rue de la paix, voilà.
Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on arrive à... Il y a plein de questions que j'ai envie de te poser, bien sûr, mais à un moment donné, comment est-ce qu'on communique? Parce qu'il y a ce côté très... très secret, très happy few, etc., de la joaillerie, où c'est un milieu qui est très feutré, voilà. Et on est quand même à une époque où
Vivre avec son temps.
Il faut vivre avec son temps, mais pour vivre avec son temps aujourd'hui, on est quand même dans la proximité, l'authenticité. Il faut parler directement avec ses clients sur les réseaux. Il faut être transparent. Il faut montrer. Il faut, en tout cas, en termes de communication, comment t'as créé toi ton mix marketing pour aller chercher des nouveaux clients, aller recruter des nouveaux clients? Comment est-ce que vous communiquez sur les réseaux pour aller chercher cette nouvelle génération de clients? Explique-moi tout ça.
Ouais, alors donc il y a plein de... En fait, je pense que si on veut se faire connaître, c'est à 360 degrés, c'est pas un canal, il n'y a pas un secret. Quand on est convaincu de quelque chose, il faut se prêter vraiment
à l'exercice.
Partout. Soit dans la presse, sur Google, Instagram, voilà.
Donc vous avez vous faites accompagner d'ailleurs par une agence sur le sujet.
Là c'est vraiment non pas pour le digital, mais en revanche pour tout ce qui est communication presse, c'est DLX. Et en interne on a des personnes qui s'occupent vraiment du digital aussi.
Donc vous faites du paid, vous faites du...
Ouais, on fait du paid, un petit peu, parce que si on fait rien, on n'a plus qu'à attendre et espérer, on fait du paid. Après, on a aussi beaucoup de clients qui viennent chez nous de génération en génération.
Ça, c'est pas mal quand même.
Le but c'est de miser surtout dans le service client, jamais décevoir ses clients, créer des vraies relations.
Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'on a un service exceptionnel? Parce que là, on est pour le coup, on n'est pas en mode DNVB qui se dit avoir un service exceptionnel, parce que là, il faut vraiment délivrer pour le coup. C'est quoi la relation que tu as avec tes clients? Comment est-ce que vous vous assurez que vous savez, vous connaissez la fille, la grand-mère, la petite fille?
Ouais, bien sûr.
Comment est-ce qu'on fait en sorte de d'envoyer du lourd à chaque client, quoi.
Bah, historiquement, ça passe beaucoup par des événements. Mmh. Avant, on communiquait pas du tout. Melerio avait jamais communiqué. Enfin, ou très peu, hein. Mais ça passait surtout par des événements. Donc, ça pouvait être des événements en Belgique, au Luxembourg, à Londres. Voilà, on se déplaçait et on créait dans des endroits un peu magnifiques. On présentait des collections. Il y avait toujours une dimension aussi un peu historique où on racontait l'histoire de la joaillerie. Et de ça, bah, il y a des belles commandes qui en découlaient et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionnait beaucoup et c'était, mmh. Et après, dès qu'il y a un besoin, un mariage, une belle occasion, parce qu'en in fine, c'est ça, les bijoux, ça représente, soit un cadeau d'anniversaire, un cadeau de 18 ans, voilà, donc.
Une naissance.
Mmh. Une naissance, donc, c'est, voilà, il faut juste être là quand il y a ce besoin. Mmh. Enfin, c'est qu'il n'y ait pas vraiment un besoin, mais qui est. Ce qui est bien, c'est qu'un bijou, ça reste, ça se transmet, mmh. ça se transmet de génération en génération. Parfois, on utilise même le très beau diamant de la grand-mère pour une bague de fiançailles, et du coup, même c'est plus fort pour la future mariée d'avoir la bague, enfin le diamant de sa grand-mère, certes sur une monture un peu plus contemporaine plutôt qu'un diamant, un nouveau diamant, voilà.
Et donc ça, c'est vraiment, enfin il faut vraiment rester top of mind de toutes les générations finalement, en tout cas que ça se transmette de mère en fille, de grand-mère en petite fille. Mais comment est-ce qu'on va chercher de nouveaux clients pour de nouvelles personnes, ouais.
Bah, ça, c'est un peu le travail de Dalix, qui nous aide beaucoup là-dessus. Mais après, non, mais moi, par nature, je suis pas quelqu'un de push. Jamais je vais voir les gens et je vais. C'est plus, moi, je me dis que si on fait des beaux produits, des belles choses, des belles créations, bah, ça vient. Voilà. Certes, ça, on va pas se déployer à une vitesse grand V, mais petit à petit. Mmh. En fait, pour moi, d'ailleurs, c'est la différence entre le luxe et la mode. Mmh. Le luxe, c'est vraiment, on construit sur le long terme. Mmh. On construit des choses qui vont rester dans le temps. Le but, c'est que ça, par exemple, la taille Melerio, c'est quelque chose où on pense depuis plusieurs siècles à cette taille. On l'a brevetée ensuite, et on la déploie et on la garde. Elle existe aujourd'hui, elle existera dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Le but, c'est jamais de construire des fondations très solides. Mmh. Alors que la mode, en général, c'est assez éphémère. La mode se démode au gré des saisons. Mmh. Et donc voilà. Donc c'est quand on a quelque chose qui est bien installé, bien pensé, bien établi, normalement, même ça va. C'est la communication par la pièce, par la création, par la joaillerie, voilà. Enfin, par le produit. Voilà.
Et ce qui m'intrigue aussi, c'est que bah, Melerio, c'est une famille, c'est une grande famille.
Ouais.
Toute la famille, et donc tout le monde est a des parts dans l'entreprise ou pas forcément?
Alors, dans l'entreprise, oui, c'est la famille qui détient les parts, mais c'est pour l'instant, il y a surtout la famille, quasiment que la famille.
Ouais. Quasiment que la famille, mais il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'aïeux, etc.
Non, maintenant, c'est assez recentré sur ma mère et
ok, voilà. D'accord. Ouais. Vous n'êtes pas 36 000 à vous partager.
Non, parce qu'en fait, historiquement, chez Melerio, il y avait un peu ce qu'on appelle droit d'aînesse, c'est-à-dire que c'était l'aîné qui récupérait tout, et ainsi de suite. Voilà.
Et toi, tu es l'aîné?
Ah oui, non, sauf que ça n'existe plus, le droit d'aînesse. moi, c'est juste que mes trois petits frères sont toujours étudiants.
Ok.
Voilà.
Donc t'es l'aîné de.
Mais après,
de
eux, ils sont les bienvenus et on va travailler ensemble. Mais d'ailleurs, on s'entend super bien. Donc,
Et eux, ils ont envie de rejoindre l'aventure familiale?
Peut-être un jour. Bon, ils sont plus. Il y en a un qui veut plus être médecin, l'autre plus financier, l'autre plus avocat. Mais ils sont encore jeunes, donc ils ont le temps de changer de. D'avis.
Très bien. Qu'est-ce que. Je trouve que c'est un des trucs que je voulais développer aussi avec toi, c'est, c'est arrivé comme ça très tôt dans l'entreprise? Parce que ça fait combien de temps que tu as intégré, toi?
Ça fait 3 ans.
3 ans. Donc à l'époque, tu avais 24 ans, c'est ça?
Non, 25. Ouais.
25.
Je vais avoir 28 là.
Tu vas avoir 28. Ouais. Donc autant dire qu'à 25 ans, oui, t'es le fils d'eux qui arrive dans l'entreprise, etc.
Ouais.
Tu travailles avec ta mère.
Exactement. Ouais.
Comment est-ce qu'on arrive à s'intégrer, à montrer patte blanche, ou en tout cas à travailler avec tous les collaborateurs qui sont là peut-être depuis beaucoup plus longtemps que même ta maman ou ton papa? Comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde là-dedans et faire en sorte que ça se passe bien et que tu motives les gens, etc.
Déjà, je pense qu'il faut être très humble. Il ne faut pas du tout être prétentieux et prendre les gens de haut, parce que ça ne marche pas du tout.
Mais toi, t'as l'air comme ça déjà dans le de nature, non?
Ça, je sais pas. je pense pas être prétentieux et tout ça, mais voilà. c'est pas trop mon style, mais non. Et je pense que moi, je suis par contre de nature très curieuse, et du coup j'aime bien me comprendre en fait ce que les gens font, chaque métier. Et le fait de commencer en fait à la vente, je comprenais le besoin du client, et ensuite j'étais amené à discuter avec les gémologues pour les pierres. Du coup, j'apprenais beaucoup sur les pierres. Ensuite, sur le dessin, tout le design, quelles sont les techniques, voilà. Et ensuite, avec l'atelier. Et ensuite, quand la commande est validée, parce qu'on faisait beaucoup de commandes spéciales, quand la commande est validée, bah, y a tout le suivi à l'atelier de comment ça se passe, comment on fabrique la pièce et tout ça, voilà. Et ensuite, la livraison au client. Donc, en fait, en étant à la vente, on voit toutes les étapes, même jusqu'à la fin, à la facturation et à la comptabilité et tout ça. Donc, c'est...
D'accord. Et la livraison, qu'est-ce qu'il y a de particulier pendant la livraison?
C'est l'émotion.
C'est vrai.
Est-ce que le client va être content?
Ouais. Et en général, ça marche pas trop mal.
En général, ça se passe bien, ouais. Mais c'est toujours assez stressant, parce qu'on ne sait jamais.
Ouais.
Peut-être que le client ne va pas du tout aimer, parce qu'on... Surtout dans la commande spéciale, c'est passé par un gouaché, un dessin gouaché. Donc, c'était pas une vue à... C'était pas la création terminée. Donc, si, entre l'idée qu'on se fait de la bague et la vraie bague, parfois, il y a un gap. Ouais. Et en général, ça se passe très bien. Ouais.
Très bien. Et aujourd'hui, vous avez une clientèle principalement française, internationale?
Ouais, c'est très française. Français. Après, il y a quelques Français qui sont qui vivent à l'étranger. On en a beaucoup. Après, il y a un gros marché au Japon. Mais pour l'instant, c'est tout. Ouais. Ouais.
Trop bien. Il y a un sujet qui est un peu touchy dans le monde feutré de la joaillerie, c'est le sourcing.
Ouais.
On dit souvent là que sourcer un diamant, en tout cas, alors vous n'utilisez pas que des diamants, mais en tout cas, voilà, les pierres précieuses, ça demande de faire des trous énormes. Il y a le fameux film, comment il s'appelle,
Blood Diamond,
ouais. Etc. Il y a beaucoup d'histoires assez sordides sur ces sujets. Comment vous aujourd'hui vous appréhendez le sujet, cette dimension à la fois, tout ce que la RSE comprend à la fois, le social mais l'environnemental aussi, etc.
Ouais,
etc.
Bon, on prend ça très au sérieux. En tout cas, tous nos fournisseurs de diamants sont labellisés RJC. Donc, c'est eux, ils sont audités, pour voir comment ils sont, comment ils extraient les diamants. Mais je pense qu'au-delà de ça, chez Melario, on utilise beaucoup les pierres des clients qui se transmettent justement, comme je te disais au début, de génération en génération. Et je pense que, honnêtement, il y a déjà énormément de ressources à l'extérieur de la planète. Il n'y a pas besoin d'aller à l'intérieur creuser des trous et tout. On peut utiliser les diamants qui existent chez des clients, ou même dans les ventes aux enchères, ou voilà, on peut récupérer ça et les faire monter. Et par exemple, nous là, on est en train de sortir de l'or vert, parce que dans les parures 1830, c'était utilisé par Melario, l'or vert qu'on a vu ensemble. Là, l'or vert, il est aussi complètement recyclé. Ouais. C'est-à-dire que pareil que pour les pierres, il y a déjà beaucoup d'or à la surface de la Terre. Autant utiliser et recycler.
Ouais.
Et donc là, en fait, il n'y a plus besoin de... Pour moi, il y a assez de diamants sur Terre.
Donc là, on est vraiment dans une économie circulaire.
Exactement. C'est plus dans la recherche de l'économie circulaire plutôt que d'essayer de mettre la main de l'homme dans la création de nouveaux diamants. Et les diamants synthétiques et tout, pour moi, ce n'est pas du tout vraiment respectueux de l'environnement et tout ça. Parce que pour créer un diamant, bon, certes, c'est du carbone et tout ça, mais c'est des réacteurs, des réacteurs qui sont très énergivores en électricité, en... Voilà. Et du coup, finalement, bah, ça demande, ça aussi, ça consomme de l'énergie et ça pollue et tout ça. Donc, pour moi, c'est pas une solution. Et en plus de ça, je trouve que il y a plus cette dimension de rareté puisqu'on peut les produire à la chaîne. C'est industrialisé en fait. Et du coup, s'il n'y a pas de rareté, pourquoi le prix est aussi cher? Juste parce qu'on croit que c'est un vrai diamant alors que c'est un diamant à la chaîne.
De synthèse.
De synthèse, ouais, un lab grown. Non, pour moi, ça, c'est vraiment pas une solution. Et en plus, en coût de production, c'est très peu coûteux de faire un diamant. Et en fait, ils vendent ça au même prix. Donc, on fait croire que c'est un vrai diamant. Le vrai diamant, qu'est-ce qui fait la valeur? C'est la rareté. C'est parce que c'est assez rare. Si en fait, on peut en faire en masse, bah, y a plus de rareté. Et du coup, le prix devrait être beaucoup moins cher.
Ouais.
Voilà, c'est juste. Donc, mais on a réfléchi, comme quoi, on a réfléchi à la question et tout. On sait pourquoi pas insister vraiment pour le développement durable et pour l'écologie. Si c'était vraiment une raison, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une autre direction, et à savoir l'économie circulaire. Comment on utilise de l'or recyclé, des pierres qui ont été montés sur des bijoux et qu'on va recycler. C'est plus dans cette direction que j'irai. Voilà mon avis. Après, c'est assez personnel. Hein. C'est
bien
pas
sûr.
Du tout,
ouais. Ouais. C'est pourquoi ça fascine autant la joaillerie?
Parce que je pense que c'est justement, comme on le disait, c'était pour célébrer des beaux moments. Et en fait, par exemple... En tout cas, pour les hommes, moi, j'ai eu pour mes 18 ans, de la part de mon père, justement, une montre Melerio. Cette montre, ça me rappelle mon père. Ça rappelle un bon moment. Ça rappelle quelqu'un, parfois. Ça reste et ça se transmet aussi. C'est pas utile. C'est pas du tout un bien de nécessité. Hein. Mais... C'est beau, ça a souvent une histoire et c'est beau en tant que joaillier de voir des gens aussi heureux et qui portent aussi les couleurs de Melerio.
Une maison avec autant d'histoire et autant d'archives, etc., ça doit susciter les envies des groupes de luxe. C'est arrivé d'être approché par des investisseurs, etc., qui veulent racheter la maison.
Ouais, bien sûr. Mais on a, en fait, je pense que c'est le côté de un peu résilience où on n'a jamais voulu vendre un peu notre âme
au diable.
Non, j'ai pas dit au diable. Non, mais c'est, en fait, je pense que dans la vie, faut être heureux, et si on est heureux dans ce qu'on fait, même si on n'est pas un grand groupe, faut continuer. C'est pas toujours une question de moyens, d'argent.
Très bien. Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas ça?
Je serais entrepreneur, c'est sûr. Dans quoi, je sais pas.
Mais... Ouais. Dans le skateboard?
Non, pas forcément. Ouais. Mais non, il y a plein de projets qui. D'ailleurs, je suis très curieux, pas que sur la joaillerie, mais sur plein de projets. Enfin, pas de projets, mais de sujets entrepreneurs, tout ce qui est innovation, savoir des entreprises qui répondent à des vrais besoins. Comment comment on va se nourrir demain, tout simplement, comment on peut consommer mieux, de manière plus intelligente, notamment dans la mode. Et d'ailleurs, ce que tu fais avec Réuni, ça participe à ça, contre les surproductions. Donc c'est plein de projets comme ça. Il y a tellement de problèmes il y a plein de projets pour résoudre ces problèmes. Mmh. Donc entreprendre dans un projet comme ça, voilà.
Trop bien. Je pense qu'on a déjà fait un grand tour. Hein.
Ouais.
tu penses qu'on a loupé des trucs?
Non, je pense qu'on est pas mal. Ouais.
ouais. Comment est-ce que tu te nourris toi justement? Comment est-ce que tu restes? Parce qu'on est quand même dans une industrie là où on n'est pas dans la tech, quoi. Je veux dire, on est quand même dans un savoir-faire qui a plusieurs centaines d'années. Donc on est dans une industrie, ouais, dans une ancienne industrie. Comment est-ce qu'on fait pour rester à la page, quoi? Et est-ce que d'ailleurs, c'est une nécessité d'être hyper moderne? C'est peut-être pas forcément une nécessité d'être hyper moderne.
Non, bah justement, c'est ce qui différencie le luxe de la mode. C'est la mode se démode au gré des saisons et le luxe se construit sur le temps et reste dans le temps. Mm. C'est savoir qu'est-ce qui va rester demain et dans 100 ans, dans voilà. Je pense que par exemple la taille Melario, c'est quelque chose qui a mis 300 ans à se créer, mais ça va continuer et ça va rester. Voilà, c'est comment réfléchir sur le long terme. Il y a jamais de rush dans la joaillerie. On sauve pas des vies ou voilà.
Ouais.
Il faut prendre le temps de bien faire les choses parce que. Une marque, ça peut mettre peut-être 400 ans à se créer, mais ça peut mettre 5 minutes à se détruire.
Ouais.
Donc il faut toujours faire super attention à ce qu'on crée, est-ce qu'on fait les choses d'extrême qualité. Et je pense que l'accumulation notre expérience dans le savoir-faire, dans les techniques utilisées en joaillerie, bah, ça nous permet d'avoir cette qualité et ces techniques joaillières. Voilà. Après, nous, on n'est pas que joaillier. Historiquement, on a trois métiers. On est joaillier, orfèvre. Donc la joaillerie, on en a pas mal parlé. L'orfèvrerie, c'est historiquement, c'est tous les trophées. Donc je peux en citer quelques-uns, comme on réalise le Ballon d'Or qui est distribué, qui est donné aux meilleurs joueurs de foot chaque année.
Et tu le dis que maintenant.
Masculin et féminin. La Coupe des Mousquetaires à Roland-Garros.
Ah ouais.
Voilà, c'est des trophées comme ça qui font aussi partie de l'artisanat français. Et c'est pas exactement pareil que la joaillerie, mais c'est très proche.
D'accord.
Donc c'est joaillier, orfèvre et bijoutier. La bijouterie, c'est la joaillerie, il y a des pierres précieuses, il y a l'expertise en gémologie. La bijouterie, c'est surtout le travail de l'or. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est le travail de l'or à l'italienne avec du perlé, de la dentelle. Voilà. Donc c'est trois métiers un peu distincts et on continue nos trois métiers en fait. Voilà.
Trop bien, ok. Et comment toi tu restes à la pointe du luxe? Comment tu te formes, comment tu t'informes sur cette industrie au quotidien?
C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe en ce moment, dans quelle direction ça se tourne, comment on voit le luxe dans 20 ans. C'est pas facile. Est-ce que ce sera dans le métaverse avec une couronne Melario? J'en sais rien. Franchement, c'est... Mais ça peut... Il y a plein d'évolutions possibles, hein, mais voilà, c'est encore tôt pour en parler. Voilà.
Très bien.
Mais au moins, on sait où on va, ce qu'on a envie de faire. Et déjà, le fait d'avoir mis à plat tout l'univers de marque à 360 degrés, de Melario, d'avoir un bloc marque où dans le bloc marque on sait exactement on comprend toute l'histoire de Melario. Donc c'est le bloc marque, c'est Melario avec le O en forme de taille Melario. Donc ça a été fait aussi par l'atelier Franck Durand depuis 1613, donc la date de création, enfin en tout cas le décret. Joaillier, orfèvre, bijoutier, nos trois métiers. Melario di Meler, c'est le côté franco-italien. Et voilà, donc en un bloc marque, on a déjà résumé un peu qui on était. Voilà. Donc ça, c'est... et tout ça sur un fond vert, parce que le vert, c'est vraiment notre couleur.
Trop bien, ok. Super, et ben écoute, merci infiniment de nous avoir fait découvrir un peu plus en profondeur Melario. Pour clôturer, est-ce que tu pourrais Tu sais, moi j'ai une marque Uni, tu le sais, tu m'en as parlé déjà. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je sais pas si t'as regardé.
Ouais, j'ai regardé.
Qu'est-ce que tu ferais différemment, toi?
Déjà, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le
mode, ouais. Dans la joaillerie.
Mais.
Quoique nous, on a fait quelques bijoux.
Ah ouais?
Ouais, on a fait.
J'ai pas vu.
Est-ce
que t'as fait des bijoux pour hommes?
Non. Pour l'instant, on fait que la femme.
Que la femme?
Ouais, que la
femme. Et est-ce que l'homme, justement, serait pas une.
Ah bah si, c'est le futur. C'est la prochaine étape.
Voilà. Parce que du coup, moi, j'ai regardé, mais je me sentais pas trop client potentiel, en tout cas.
Ouais.
Mais peut-être que justement développer l'homme dans une société qui veut un peu plus gender free c'est important d'avoir ça. Et peut-être est-ce que t'as un produit un peu iconique qui quand on le porte on sait que c'est réuni?
Alors, on a le cardigan réuni,
voilà. Alors très bien.
C'est extraordinaire. Ouais.
Le cardigan,
voilà. Donc on continue comme ça alors. Et dernière question pour ouvrir aussi, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Est-ce que tu me conseilles de est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as croisé dans ta vie dans ta jeune vie de professionnel que tu me conseilles de rencontrer?
Là j'ai il y en a, bon après c'est
tu peux en dire plusieurs hein.
ouais ça peut être alors je les ai jamais croisés hein.
Ouais.
Mais par exemple Alessandro Michele donc
Gucci.
Qui gère toute la direction artistique de Gucci, en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il revisite vraiment l'ancien mais à travers un twist très prononcé et il arrive à rendre l'ancien très contemporain, très actuel. Et je trouve qu'il le fait d'une manière remarquable. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il va puiser son inspiration très très loin, parfois dans des bijoux baroques, de Renaissance. Et voilà, je trouve que c'est assez intéressant la manière dont il fait les choses. Et après, peut-être le fondateur de Patagonia, tout simplement pour.
Yves Chouinard.
Ouais, parce qu'il n'a pas une. Pour moi, il n'a pas une vision business de la chose. Et ça, je respecte énormément. Il est plus. Enfin, c'est un grand businessman, mais.
Il a monté une.
C'est pas sa volonté première.
Ouais.
Sa volonté première, c'est vraiment d'être une marque engagée qui participe à
sauver le monde.
À sauver le monde. Et je trouve qu'avoir des convictions aussi fortes et aussi puissantes, c'est super important. Et ça parle à notre génération, en tout cas.
Trop bien.
Heureusement qu'il y a des entreprises comme ça.
Ouais, c'est clair. Bon,
et c'est pour ça que je pense que ça va durer des générations et des générations parce que, enfin, je sais pas s'il y a une suite, un repreneur pour Patagonia. Je sais pas s'il a des enfants ou quoi que ce soit.
Je sais pas. Je crois que sa femme est encore vachement dans le truc, mais.
Mais en tout cas, je trouve qu'il a fait ça sur des fondations assez solides.
Ouais.
Voilà.
Ah oui, il a fait le taf, hein, c'est sûr. Donc, Yvon, si tu nous écoutes, Michele, si tu nous écoutes. je serais très moi aussi j'adorerais vous interviewer. Merci infiniment Com.
Merci beaucoup Adrien
et good luck pour la suite des événements et pour tous les challenges qui arrivent et longue vie à
Melerio.
Salut.
Merci beaucoup, salut.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.